ans et 11 mois. Son remplacement a été officialisé hier lundi, 4 mois après les élections législatives.
Aux États-Unis, il avait jusqu'à jeudi pour déposer une garantie de 175 millions de dollars.
Mais c'est désormais chose faite.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs et auditrices, bonjour. Dans L'Enfant Rivière, publié aux éditions d'Alva, Isabelle Amonou nous propose un récit d'anticipation. En 2030, poussés par le dérèglement climatique, les États-Unis migrent vers le Canada. Pour se protéger de cette migration massive qu'ils tentent de juguler, les Canadiens décident de construire un mur entre leur pays et l'Alaska. Pour y échapper, des jeunes Américains s'organisent en bande et reviennent à la vie sauvage. L'auteur s'attache à l'histoire d'un couple qui s'est défait à la suite d'un drame familial. C'est l'histoire de Zoé et Thomas. Zoé frissonna. Elle éprouvait l'excitation du chasseur parvenu au bout de sa traque. Elle y était, enfin. Dans la lunette du fusil, il apparaissait plus grand. À moins de 50 mètres, elle ne raterait pas son tir. Ça lui avait pris 3 jours pour repérer le groupe, puis celui qui s'en éloignerait. Poursuivre et attendre, les nerfs à vif, comme chaque fois. Affûté par le danger, se fondre dans la forêt, disparaître, effacer ses propres traces et son odeur. Mais eux aussi avaient développé un instinct nouveau pour affronter le sien ancestral. La partie de cache-cache devenait plus difficile. Elle crispa l'index. Tira. Juste avant l'impact, il bougea un peu, puis tenta de se retourner vers elle, furibond. Mais la flèche le toucha au flanc, il tituba, résista un instant, puis s'écroula en gémissant. Elle écouta, tendue vers le silence, puis se dirigea vers le corps inanimé, en prenant garde de ne pas faire craquer les brindilles, de ne pas froisser les feuilles, de ne pas heurter les branches. D'autres pouvaient se tenir là, sous le couvert des arbres. Ils pourraient l'encercler, l'attaquer, la blesser, la tuer. Elle chargea la proie sur son dos. Il était petit, mais lourd, tout en muscles, près de 30 kilos. Elle étouffa un juron. Elle reprit son chemin à travers le sous-bois, 500 mètres de marche concentrée avec le fardeau qui la pliait vers le sol, attentive à éviter les racines qui affleuraient, les flaques de boue, les collets, les pièges disposés ici et là. Elle ne croisa personne, pas même un chasseur. trouva son pick-up garé au bord du chemin d'Aylmer, déposa sa charge à l'arrière dans la benne, sur une vieille couverture. L'observa un instant, il était un peu plus âgé qu'elle ne l'avait cru à distance. Dans les 11 ans, peut-être 12, au début, elle ne pouvait pas les regarder, ça la gênait. Maintenant, elle était plus forte, elle devait les regarder, si jamais c'était le bon. Mais celui-ci était presque adolescent, sa peau et ses cheveux trop clairs. Elle le recouvrit de la bâche kaki, elle resta immobile un instant derrière le volant à la recherche de son souffle. Elle alluma une cigarette. Elle fumait trop, depuis quelque temps. Le pick-up se fondit dans la circulation discrète de ce début d'après-midi ordinaire. Elle prit la direction d'Ottawa à la radio, déversait un vieux des années 2000. Elle se mit à fredonner, lèvres serrées. Elle jetait de temps à autre un œil dans le rétroviseur intérieur, mais ne distinguait rien d'autre que la bâche dont quelques lambeaux claquaient au vent. Rassurée, il ne se réveillerait pas avant d'arriver au point de livraison. Au début, elle maîtrisait mal les doses. L'année précédente, l'un d'entre eux s'était ranimé pendant le trajet, avait sauté de la benne du pick-up en plein boulevard des Allumettières. Elle avait freiné sec quand elle avait vu la bâche se soulever, s'était fait injurier par le conducteur de la voiture qui la suivait, les pare-chocs s'étaient heurtés. « Et ça ne va pas de ralentir comme ça et de trimballer ton gosse dans la benne ?» Pendant ce temps-là, sa proie, une fillette d'une dizaine d'années, était partie en claudiquant, avait traversé la voie ferrée et disparu dans le sous-bois. À cause de cet abruti qui la serrait d'un peu trop près, elle ne l'avait pas retrouvée.
À l'aéroport de Montréal, au matin, débarquant d'un vol de nuit, Thomas ne trouva pas de voiture de location. Il s'y attendait, il aurait dû réserver. Il marcha dans la ville, sac au dos. C'était comme une première fois. Les rues, les immeubles et la lumière, le scintillement du Saint-Laurent au loin. Il se fraya un chemin à travers les marées humaines. C'était comme à Paris, mais différent. Tout. L'intensité du soleil, la largeur des avenues et du fleuve, les accents, tout. Ici, c'était l'Amérique. Il observa les gens de toutes sortes, de tous âges, dans les rues de la ville. Ça marchait, ça courait, ça parlait. Il cherchait à peine consciemment la silhouette d'un enfant d'une dizaine d'années, plus exactement d'un enfant de 9 ans, 9 mois et 10 jours, au teint mat et aux cheveux noirs. Il joua avec l'idée de rester ici, se perdre ici, changer d'identité, de ville, de pays, de continent. Changer de vie et disparaître. Ne plus être Thomas. Demeurer un homme de 32 ans de race blanche, aux cheveux clairs et aux yeux bleus, un peu louches. Car ça, on n'y peut rien. Ça ne peut pas être modifié, mais devenir un autre Thomas. Avec un travail plus modeste, une vie plus simple, une chambre discrète dans un appartement au bord du fleuve. Un homme sans passé, sans famille, sans avenir. Mais ça ne servirait à rien car toujours il continuerait à chercher la petite silhouette qu'il n'était même pas sûr de reconnaître tant l'horloge avait tourné. En 6 ans, les traits d'un enfant se transforment, s'affinent. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était un tout petit, de ceux qui normalement deviennent enfants puis préadolescents. Il se secoua, pas de ça, pas encore, pas maintenant. Il héla un taxi. Il aurait aimé ne pas parler, se laisser anesthésier à l'arrière du véhicule, mais la conductrice était loquace. Elle dit qu'elle aimait bien les Français. Elle aurait voulu émigrer là-bas. Après la fin de ses études, elle avait vécu plusieurs mois à Paris. Elle avait adoré. C'était une ville magique, Paris, une ville lumière. Mais maintenant, elle ne savait pas trop, avec tout ce qui se passait aussi en Europe. Qu'est-ce qu'il en pensait ? Thomas n'était pas seulement français, il était né ici. Il était canadien, même s'il parlait le français sans accent, même s'il avait obtenu la nationalité française à force, mais à quoi bon le lui dire ? Quant à Paris, lui n'avait pas vraiment choisi, c'était un hasard, une fuite, mais il n'en révéla rien. Il avait bien assez de mal à gérer sa propre vie pour prétendre conseiller les autres. Et il lui raconta quand même qu'en France aussi c'était dur. Le mois précédent, Bordeaux sous les eaux avait dû être évacué, après Dunkerque et Saint-Malo. Bientôt ce serait Calais. Tout débordait.
Paris se noyait sous les réfugiés climatiques, politiques, économiques. Alors c'est comme ici ? Il acquiesça. Oui, c'était un peu comme ici. Probablement, pour ce qu'il en savait, de loin, par les journaux. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au Québec. Avant Pointe-aux-Chênes, elle quitta l'autoroute. Il pensa que c'était pour l'essence, mais elle continua vers le nord. « Je préfère sortir maintenant, dit-elle, la 50 est coupée sur une bonne dizaine de kilomètres. Pourquoi ?» Elle le regarda surprise. « La tornade !» Il se tut, il savait tout ça, savait déjà commencé avant son départ, les premières tornades. « Tu viens pourquoi ? La famille ?»« Mon père est mort avant-hier, je viens pour l'enterrement. » Elle se mordit la lèvre. « Je suis désolée, je n'aurais pas dû te demander ça. » Le cœur s'est arrêté, il était malade depuis longtemps. Il avait dit ça comme si le fait d'être malade rendait la chose normale. Que le cœur s'arrête, anodine, ça ne l'était pas. Il ne fréquentait plus son père depuis longtemps, mais pensait qu'il l'avait laissé mourir comme ça, sans venir le voir, pas une seule fois durant les 6 années passées. 2 ou 3 appels par an, Noël, anniversaire, à peine plus pendant les derniers mois d'agonie. Plus rien à lui dire depuis que... Tu as des enfants ? Il secoua la tête, un geste commode qui pouvait dire oui ou non. Il n'aimait pas cette question, il ne pouvait pas y répondre simplement. « Moi j'ai un chum et une fille à Ottawa. Elle a 4 ans et j'en attends un autre. Parfois je regrette. » Elle avait regardé son ventre. « Tu regrettes quoi ? C'est plus un monde pour avoir des enfants. Je sais pas quoi lui dire à ma fille. La température va encore augmenter de 3 degrés dans les 20 ans qui viennent. » Les océans vont monter, la rivière va déborder tous les ans, on se tapera d'autres tornades, on ne sait plus quoi faire des réfugiés. Qu'est-ce que je vais leur laisser ? L'optimisme. Il faut leur laisser l'optimisme. Et l'amour. Il regarda ses mains, il se sentit idiot. Il s'était toujours senti idiot quand il parlait d'amour. C'est ce que j'essaie de faire, de toutes mes forces, mais certains jours je n'y arrive pas. Ce monde est en train de crever, et on le laisse crever sans rien faire, alors l'optimisme... Il n'avait pas d'argument, il avait réfléchi souvent à tout ça. Il avait parlé des heures à en parler, à Ottawa ou à Paris, avec ses amis. Des amis comme lui, nés trop tôt ou trop tard, d'une consternante bonne volonté et d'une non moins consternante naïveté. De ceux qui avaient pressenti les catastrophes, avaient manifesté pour le climat, pour la justice et l'égalité, pour la réduction de la consommation, contre les dérives du capitalisme, pour l'ouverture des frontières, pour l'aide aux migrants. Tout ça n'avait servi à rien. Et il osait parler d'optimisme et d'amour. Il cessa de l'écouter. Son esprit était là-bas, au bord de la rivière. Elle le déposa à elle-même, devant la maison de son père. Quand il régla sa course, ils se serrèrent la main et se souhaitèrent bonne chance. Ça ne voulait rien dire, mais ça faisait du bien. Et puis il était content qu'elle ne lui ait pas souhaité bon courage. Il préférait la chance.
La circulation bloqua Zoé sur le pont du Portage. Un pêle-mêle de voitures, vélos, camions, bus. Ça grinçait, ça couinait, ça ronronnait, ça jouait du volant, de l'avertisseur, du frein et des cordes vocales. Ça ne se résignait pas, c'était prêt à tout pour gagner 2 minutes. Zoé serra les dents et décida qu'aujourd'hui, elle s'en fichait. Elle avait encore quelques heures avant son passager se réveille à l'arrière. Elle se concentra sur l'eau qui bouillonnait en contrebas, presque vivante. En provenance des chutes des chaudières. En cette période printanière, c'était habituel. Ce qui ne l'était pas, c'était le niveau de la rivière qui atteignait presque le tablier du pont, d'une vivacité inquiétante. Ce pont-ci non plus ne tiendrait plus très longtemps. Celui des chaudières avait dû être démantelé, devenu chaque printemps un peu plus impropre à la circulation, au moment où la fonte des neiges au nord saturait les sols et gonflait les cours d'eau, remplissant les normales, l'agitation se calmait un peu. La rivière des Outaouais roulait furieusement vers Montréal. Là-bas, elle deviendrait l'affluent principal du fleuve Saint-Laurent. Elle aurait pu s'appeler comme ça d'ailleurs, le Saint-Laurent. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Elle avait été baptisée la Grande Rivière, puis la Rivière du Huron, et puis finalement, la Rivière des Outaouais. Elle, elle aurait préféré le nom que lui avaient donné ses ancêtres algonquins, Kitchesekpi,
un mot qui claquait, qui roulait et qui bouillonnait, qui rappelait le temps où ils empruntaient la rivière en canoë pour atteindre les grands lacs et le pays d'en haut pour le commerce des fourrures, avec les premiers explorateurs français, quand on ne les avait pas encore arrachés à leurs terres pour les coller dans des réserves. Zoé était née de cela, d'une mère autochtone et d'un père descendant des Français. Elle n'avait pas de préférence, pas d'allégeance. Elle se contentait d'être Zoé. Elle était à la fois la victime et l'oppresseur, la proie et le chasseur. Elle ouvrit la vitre. On ne savait pas trop ce que charriait la rivière, mais l'odeur était forte et la couleur très sombre, comme une odeur et une couleur de légumes pourris. Bienvenue en Ontario. Sur le retour, livraison effectuée, chèque en poche, elle s'arrêta près des rives rocailleuses des rapides Rémic. Elle aimait cet endroit. Le roucoulement des rapides l'apaisait. À cette époque de l'année, il y avait peu de visiteurs. Elle était seule sur la berge. Elle se détendit, se déshabilla, s'immergea, plongea. Mouvement de crawl régulier, muscles souples, elle s'éloigna du bord, déjouant les courants. Elle avait besoin de se nettoyer dans la rivière, comme chaque fois après avoir remis un gosse à Ottawa. Sentir l'eau froide glisser sur sa peau nue et ne plus penser à rien. Mais d'en nettoyer, il y avait noyé. Alors elle se prit à penser à Nathan, à la suffocation, à la panique, à l'étouffement. Elle arrêta de respirer pendant une minute ou deux, immergée, immobile, se laissa entraîner par le courant. Elle se dit qu'elle allait mourir, convoqua l'asphyxie, mais c'était faire fi de l'instinct de survie. Elle remonta à la surface et ses poumons se gonflèrent brutalement et l'oxygène afflua, bien avant la perte de connaissance, les lésions cérébrales, la mort. Elle avait souvent essayé. C'était inutile. Il était impossible de mourir en arrêtant volontairement de respirer. Et puis de toute façon, Nathan ne s'était pas noyé.
La Virgen se está peinando. Ellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo...
Thomas était venu pour sa sœur Jude, pas pour les funérailles, pour régler les formalités. Ils allaient mettre la maison en vente et partager l'argent. Quelques mois auparavant, il aurait décliné l'héritage dont il n'avait qu'offert. Il aurait dit à Jude de tout garder. Mais son travail à l'institut avait du plomb dans l'aile. Il n'était pas certain que ce contrat soit renouvelé. Et Jude lui avait dit « J'ai besoin de te voir, de te parler. J'ai besoin que tu sois là, avec moi. Tu peux bien faire ça pour l'enterrement de ton père, et aussi pour vider la maison. » Elle ne voulait pas faire ça toute seule. Les visites mortuaires, la cérémonie, et puis trier, classer, jeter les affaires des parents. Pas toute seule, s'il te plaît, Tom. Moi non plus, je ne l'aimais pas tant que ça, mais c'était notre père tout de même. On n'a qu'un père. Ne me fais pas ça, Tom. On n'a qu'un père. Et celui-là avait le cœur fragile depuis longtemps. Le cœur sec et fragile. On n'a qu'un père. Et il avait laissé partir le sien sans lui parler. Il savait bien pourtant que c'était la fin. Sa sœur l'avait prévenu, il ne passerait pas l'été. Thomas lui en avait voulu. De cette existence qu'il leur avait fait subir, le poids de la religion, chaque expérience transformée en péché, la liberté en purgatoire. De son refus d'accepter que ses enfants mènent une vie différente de la sienne. De son rejet épidermique de Zoé. De sa distance incompréhensible à leur enfant, son petit-fils. Ils s'étaient installés dans le salon, le frère et la sœur, partageant une pizza et une bouteille de vin. Ils parlaient bas, dans la maison hantée par le père, par le cadavre du père étendu sur son lit. Tom avait posé la main sur sa joue, l'avait retirée très vite. C'était trop froid. C'était trop tard. Il n'avait même pas 60 ans. On ne meurt pas à 60 ans, c'est absurde. La vie est absurde, Jude. Elle pleurait. Elle avait toujours pleuré plus que lui. Il la prit dans ses bras, mais garda les yeux secs, comme s'il n'avait plus ni mots ni larmes disponibles. Des années auparavant, il avait fait le deuil de sa mère, échoué à faire celui de son fils. Il n'avait rien gardé pour le père.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, entre papa et toi?
Quand ça? Avant que tu partes, tu ne m'as jamais dit. Pourquoi tu lui en veux toujours autant? Pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi il n'est jamais allé te voir à Paris? Il se tut longtemps. À cet instant, il aurait aimé fumer, ne jamais avoir arrêté. Ne pas devoir se replonger dans cette soirée d'hiver où il avait fait face à son père pour la dernière fois. Il m'a dit que c'était ma faute pour Nathan. Que si je n'avais pas épousé une cinglée, ça ne serait jamais arrivé. Et aussi que j'avais tué maman, qu'elle était tombée malade à cause de moi, à cause de Nathan. Il avait parlé d'une traite, il reprit son souffle. Alors je l'ai giflé et je suis partie. Le père quitta sa maison en fourgon mortuaire, direction le cimetière de Hull. Cercueil scellé sur corps livide, mains froides, sagement croisées sur le ventre, tableau figé. Thomas aurait préféré garder une autre image, mais maintenant c'était celle-là qui resterait, et puis celle de la crémation, de l'urne exposée dans la vitrine du souvenir. Devant les cendres, c'était encore à Nathan qu'il pensait. Si les choses avaient été différentes, s'ils avaient retrouvé son corps, il aurait pu être là, près du père. Il lui aurait tenu compagnie dans une urne voisine. Il n'avait pas eu cette chance. 6 ans plus tard, Nathan n'était ni mort ni vivant. In limbo. Présumé vivant, selon la loi québécoise, pendant les 7 années à suivre la disparition. Présumé vivant pour Zoé. Présumé mort pour lui. Dans moins d'1 an, il pourrait exiger un certificat de décès. Il ne le ferait pas. À quoi bon? Ils se retrouvèrent, les bras ballants, avec la sœur, le cousin vague et sa femme, et aussi Michel, l'ami de toujours. Ils ne pouvaient pas se séparer sans aller prendre un verre. Ils en avaient besoin. Exorciser la mort, se persuader qu'on est encore vivant. Ils choisirent un bar dans le vieux Hull, un lieu sombre et vivant, bois et lumière tamisés, chope de bière et tartines. Même s'ils n'avaient pas grand-chose à se dire, la faucheuse s'éloignait. Au troquet, le cousin raconta la tornade qui les avait frappés en septembre 2029. Il n'était pas préparé, ce n'était pas la première à s'abattre sur la ville, mais celle-là avait été d'une violence inédite. En tout cas, la tornade la plus meurtrière, la plus coûteuse depuis longtemps. Il ne put s'empêcher de demander pour la marina de Deschênes, est-ce qu'elle était toujours debout? Le cousin haussa les épaules, gêné. Il n'avait jamais été très proche, mais il connaissait l'histoire de Thomas et Zoé. Il n'était pas allé voir de ce côté-là, ce n'était pas son secteur, dit-il. Lui habitait à l'est, à Buckingham. Alors Michel prit la parole. Il y a eu pas mal de dégâts et le père de Zoé est mort pendant la tornade. Thomas déglutit. Le parallélisme de leurs histoires le troublait. Le père de Zoé était mort quelques mois avant le sien. Et Zoé? Zoé va bien, elle finit de retaper le chalet. Il n'osa pas regarder Michel. Il avait plaqué son dos contre la banquette en moleskine. S'il se penchait, il pourrait tomber. Le sol s'était ouvert sous ses pieds. Elle retapait le chalet. Elle était vivante. Elle voyait Michel. Lui n'avait pas appelé Zoé. En 6 ans, il n'avait pas appelé une seule fois. De loin en loin, il avait appelé Michel et n'avait jamais pris de nouvelles de Zoé. Il n'avait même pas imaginé que son ami resterait en contact avec elle. Il ressentit une pointe de dépit absurde. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Il n'avait jamais demandé à Michel de choisir entre lui et Zoé, il n'était pas de ceux-là. Il sentit le regard de sa sœur peser sur lui, inquiet. Plus tard, il se dirigea vers Ottawa. Il avait décliné l'invitation à dîner de son cousin. Il avait besoin d'être seul, de marcher, de chasser les images de l'enterrement et de la tornade, de la marina dans la tornade, de Zoé qui retapait le chalet. Il rejoindrait plus tard l'appartement de Michel qui dormait chez sa copine, lui avait laissé les clés. « Installe-toi, fais comme chez toi, c'est un peu le bordel mais tu devrais t'en sortir. » Sa sœur était partie retrouver un ami, elle coucherait chez lui. Ni l'un ni l'autre ne voulait passer la nuit dans la maison vide d'Elmer où flottait encore l'odeur du père. Machinalement, il se retrouva sur le pont d'Alexandra, coupé à la circulation, surveillé de chaque côté par l'armée et la police. Une foule inhabituelle refluait d'Ottawa vers Gatineau. Il renonça à remonter le courant humain, laissa passer, s'agrippa au tablier du pont, juste au milieu, devant la plaque qui marquait la frontière interprovinciale. Un jeune homme s'arrêta près de lui pour rouler une cigarette, affublé d'un bonnet péruvien malgré la douceur de l'air. « Qu'est-ce qui se passe ? »
Le bonnet répondit étonné. « C'est la fin de la manif. T'étais pas là pour ça ?»«
Non, je n'étais pas au courant, je viens d'arriver. Quelle manif ?»«
La manif devant le Parlement. Dans tout le Canada aujourd'hui, à 18h, il y avait des protestations contre le mur entre le Canada et l'Alaska. C'est la fin, les gens rentrent chez eux. »
Thomas ne comprit pas. Un mur avec l'Alaska, c'était absurde. La population de l'État ne devait guère dépasser les 500 000 habitants. Le risque d'invasion semblait limité.
Ils ont peur des migrants en provenance d'Anchorage ?
Le jeune homme ne rit pas, haussa les épaules, le bonnet s'agaça.
Lis un peu les journaux, man. Ils veulent envoyer là-bas tous les Américains qui ont réussi à migrer au Canada. Et le mur, c'est pas pour les empêcher d'entrer chez nous, c'est pour qu'ils ne s'échappent pas une fois qu'ils seront bouclés en Alaska.
Il resta là longtemps, bien après le reflux des manifestants. Il tenait à la main le tract que le bonnet lui avait collé entre les mains avant de partir.
Non au mur. Comment un pays comme le Canada, qui se targue d'être l'une des dernières démocraties, peut-il envisager la déportation de milliers de réfugiés états-uniens vers l'Alaska ?
Il était debout, entre ciel et terre, entre deux provinces, appuyé à la rambarde du vieux pont, au-dessus de la rivière frontière des Outaouais. Un goût métallique dans la bouche. Il s'incorporait à la tombée de la nuit. Il posa son regard sur le ciel couvert de nuages, puis redescendit sur terre, les yeux sur les deux villes qui s'allumaient peu à peu, lumière tremblotante. Il jaugea les lieux autrefois familiers. Ses yeux suivirent la rivière agitée, embrassèrent l'horizon, cherchant à accommoder au loin vers la marina de Deschênes le chalet de Zoé. Mais c'était hors d'atteinte. Le regard butait plus près sur les bâtiments fédéraux côté Ontario, puis côté Québec, pareillement laid, cage à fonctionnaires. Pendant ses études, il avait travaillé là tous les étés, dans le service des affaires autochtones. Il aurait pu y être embauché après sa maîtrise. Il avait préféré rester à l'université. Chercheur zélé, linguiste talentueux, apprécié de ceux, amis, collègues, qui plus tard n'avaient pas compris sa démission ou mal. « Prends un congé, Thomas. On comprend que tu vas mal. C'est terrible ce qui t'arrive. Reviens dans 6 mois, dans 1 an, mais ne baisse pas les bras. » Ne laisse pas tomber ta thèse. Mais il avait démissionné, pas seulement de son métier, mais aussi de sa famille, de son pays, enfin de sa vie, toute sa fichue vie. Une désertion engendrée par la perte de Nathan, entretenue par la dépression, la rupture avec son père, la dégradation inexorable de son couple. Il chercha encore la marina et décida que là où son regard ne pouvait porter ce soir, il n'irait pas. Ce qui s'était passé là-bas ne le concernait plus, que la tornade l'ait détruite, pulvérisée, engloutie, ne lui importait plus. Que Zoé reconstruise son chalet. Lui, c'était toute sa vie qu'il avait dû essayer de reconstruire ailleurs.
Zoé avait repris la route de la marina. Le trafic était toujours très dense à cause de cette fichue manifestation contre quoi elle ne savait pas exactement. Encore une histoire de mur, comme si une manif pouvait y changer quelque chose. Deux des 4 ponts qui reliaient Ottawa à Gatineau avaient été coupés à la circulation. Les 2 autres étaient surchargés. Tant qu'ils n'auraient pas reconstruit celui des Chaudières, au moindre accident, ce serait le bazar. Elle roulait au pas sur le pont Champlain, pensait à Thomas. À 7h, il devait être à l'enterrement. La veille, elle avait reçu un appel de Michel, laconique. Le père de Thomas est mort, il sera enterré demain. D'abord, elle n'avait rien répondu, un instant tétanisé. C'était la première fois depuis des années que Michel lui parlait de Thomas. Et puis, elle avait enfin rétorqué un peu agressive. Pourquoi il lui disait ça? Qu'est-ce qu'il voulait que ça lui fasse?
Bon, rien, j'ai pensé que c'était mieux que tu sois au courant, c'est tout.
Tu lui as dit? À lui, quand mon père est mort?
Non.
Alors pourquoi tu m'annonces ça?
Mais elle savait bien pourquoi. Michel n'ignorait pas qu'elle n'irait pas à l'enterrement du vieux salaud qui n'a jamais pu la blairer, non. Il voulait juste la prévenir de la présence de Tom à Gatineau. Elle avait raccroché sans le remercier. Elle observa, en contrebas, un troupeau de bernaches sur la berge. Une mère tentait de se mettre à l'eau avec ses petits, mais le courant était trop fort. Un éclair frappa Ottawa vers l'ouest. Zoé compta les secondes avant que le tonnerre se fasse entendre. L'orage était encore loin, 4 ou 5 kilomètres. Mais s'il s'approchait, la rivière en crue allait sortir de son lit pour inonder les deux villes, chacune de son côté, hostiles mais unies bien malgré elles dans leur malchance. Gatawa. C'était comme ça que Thomas appelait les deux villes, contraction de Gatineau et d'Ottawa. Il aimait s'amuser avec les mots. Ça lui était venu un soir après une séance de cinéma. La salle jouait un vieux film des années 1990, « Bienvenue à Gattaca ». Et Tom avait dit « Tu vois, dans 10 ans, dans 30 ans, ici on dira « Bienvenue à Gatawa ». Les deux villes se seront réunies. Et on parlera quoi ?» avait demandé Zoé, distraite encore sur le coup d'un Ethan Hawke, inquiétant au physique trop parfait. « On parlera anglais ou français ?»« On parlera un mélange de français, d'anglais et d'algonquin, le gatacain. » Il n'y a que toi qui sauras la parler, cette langue-là. Thomas étudiait les langues à l'université d'Ottawa. On l'apprendra à l'école, nos enfants l'apprendront à l'école. Je ne veux pas d'enfants. Tu dis ça à cause du film, les manipulations génétiques et tout ça? Non, je dis ça parce que je ne veux pas d'enfants. Je préfère juste nous deux. Il l'avait embrassé. Moi aussi je préfère. Ce sera juste nous deux. Et ça avait été eux trois. Malgré la panique de Zoé, sa terreur de ne pas y arriver. Pour Tom, c'était différent. Lui n'avait pas peur de ne pas réussir à élever leur fils. Il avait juste cette idée bizarre que le monde allait trop mal pour y jeter un enfant de plus. Il parlait de ça souvent avec ses amis de l'université. Surpeuplement, famine, réchauffement climatique. Zoé les écoutait d'une oreille distraite. Pendant ce temps, elle pensait à abus, négligence, méchanceté. Pendant ce temps, elle paniquait. Comment on fait pour aimer un enfant? Personne ne lui avait appris. Au contraire, elle ne saurait pas. Pourtant, quand elle l'avait vu la première fois, quand on l'avait posé sur son ventre, elle avait été saisie d'une sorte d'éblouissement, non pas devant la beauté du nourrisson, laid comme ils peuvent l'être à la naissance, non. Émerveillée par cette idée toute simple qu'elle avait créée, ex nihilo, une créature totalement indépendante de ses parents. Une créature qui allait grandir et leur échapper pour devenir peu à peu un homme. Un lutin qu'elle parviendrait à aimer comme elle aimait Thomas. Le reste ne comptait pas. Elle y arriverait. Et elle avait réussi. Au début. Après, les choses s'étaient dégradées. Elles se dégradent souvent. Elle n'avait pas supporté ses pleurs, ses colères, ses difficultés à s'alimenter. Thomas avait tenté de la rassurer. « Tu es fatiguée, c'est normal. » Mais non, ce n'était pas ça. Et ce n'était pas une question de fatigue. Et ce n'était pas normal. Le comportement de Nathan était la preuve éclatante qu'elle ne faisait pas bien, comme il fallait, pas assez, qu'elle ne parviendrait pas à le protéger de Martin, d'elle-même. Elle ne savait plus. Elle et Martin, c'était pareil. Ils étaient pareils. La même race de brutes. Tel père, telle fille. Un autre éclair la sortit de ses ruminations. Quand le tonnerre se décida à gronder, quand elle eut fini de compter les secondes, elle se détendit. Cet orage-là s'éloignait, ce ne serait pas pour cette fois. En s'engageant sur le chemin de la marina, Zoé repéra tout de suite la voiture des flics. Soupira. Qu'est-ce qu'il fichait là encore? Elle se gara, ouvrit la vitre du pick-up. Le plus vieux s'approcha d'elle, la salua d'un hochement de tête. Le plus jeune était resté près du 4x4. Elle les connaissait. Ils étaient déjà venus traîner par ici, préparer un mauvais coup, c'était sûr. Bonjour madame, on vient vérifier que tout se passe bien ici. Oh, ça va. Il ne vous embête pas? Il eut un geste du menton vers le camp des migrants en contrebas du chalet. Zoé les avait laissés s'installer avant. Avec le père, c'était hors de question. Quand il tentait de dormir sur le parking de la marina, Martin sortait son fusil et les chassait. Hommes, femmes, jeunes, vieux, il ne faisait pas de différence. « Oust, tout le monde dehors, rentrez chez vous !» Quiconque tentait de lui faire remarquer qu'il ne faisait de mal à personne et ne pouvait rentrer chez eux, car chez eux, c'était les États-Unis, se faisait envoyer paître. Et vous voulez quoi? Que je leur donne le hangar, l'eau courante, le chauffage, pour que ça attire tous les crèves-la-dalle de la région jusqu'à ce que ça déborde et qu'ils nous fassent la peau? S'opposer à Martin vivant n'était pas une option. Après sa mort, elle leur avait donné du bois, des tôles et des outils pour construire un baraquement, des cases. Le camp avait poussé jusqu'à ce que la population se stabilise à une vingtaine d'individus, que la police tentait régulièrement de déloger. Ah, s'ils m'embêtaient, je ne les laisserai pas sur mon terrain, dit Zoé. Quelqu'un s'est plaint? Oui, ils dérangent. Zoé ne répondit pas. Le plus proche voisin était à 200 mètres de là. Qui dérangeait-il? Cela restait mystérieux, à part les pêcheurs du dimanche et les promeneurs. Moi, ils ne me dérangent pas, ils ne me font rien de mal. Pourtant, un soir, l'un d'entre eux l'avait agressée quand elle rentrait chez elle. Rien de bien grave, elle savait se défendre. Une autre fois, elle avait trouvé un couple dans son lit. Elle avait érigé une clôture autour de ce qu'elle entendait garder comme sa propriété privée. Le reste, Zoé le leur laissait. Elle s'en fichait. Ils étaient suffisamment loin pour ne pas l'incommoder. Ils étaient assez près pour la protéger d'une éventuelle attaque nocturne et lui donner un coup de main pour les petits travaux de la marina, réparer ses barbelés, entretenir le chemin d'accès. La voiture de patrouille s'éloigna lentement comme à regret. Zoé la suivit du regard. Combien de temps avant qu'ils reviennent? Les Québécois supportaient de plus en plus mal les envahisseurs, en particulier les anglophones. Un jour, ils allaient tous les embarquer. C'était sûr et elle n'y pourrait pas grand-chose. Quand les flics eurent complètement disparu, le camp se mit à frémir, se réveilla, menace écartée pour cette fois. Fred remonta le chemin vers Zoé, la rejoignit devant la grille, l'embrassa sur la joue. Le contact lui déplut, elle s'écarta légèrement. Elle aimait bien Fred, mais ce n'était pas le moment. Il voulait quoi? Bah, comme d'habitude, savoir si vous m'embêtiez. Tu viens manger un morceau avec nous? Elle haussa les épaules. Bon, pourquoi pas, je te rejoins là-bas. Elle gara le pick-up dans la cour, manqua de se faire renverser par Balthazar tout à sa joie des retrouvailles. Elle aurait pu le prendre pour chasser le matin, mais le chien vieillissait mal, regard vitreux, cataracte. 10 ans pour un retriever, ça commençait à compter. Ce n'était plus lui qui la protégeait, c'était le contraire. « Tu restes là, Balta, tu gardes le chalet. Je reviens bientôt. » Elle referma le grillage, descendit vers le campement. Elle longea des tentes et des préfabriqués, rejoignit le baraquement central qui servait aux campeurs de salle commune, de cuisine et de sanitaire. Ils accueillirent Zoé en héroïne. Clap dans le dos, accolade. « Merci Zoé d'avoir dégagé les cops !» Zoé sourit, accepta une bière, une assiette de nourriture, s'assit à distance de Fred, tenta de les écouter, mais elle était ailleurs. Elle pensait à Tom qui n'avait jamais été aussi près d'elle depuis 6 ans. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ce soir ou chez lui dans la vieille maison d'Almer ou alors chez Michel ou alors... Elle se secoua, reprit le fil de la conversation. « Moi je pars plus nulle part !» cracha le vieux Dirk. « Trop vieux !» Trop froid là-bas en Alaska. Je pars pas non plus, dit Johnny, je cherche du boulot ici. Fred s'agaça. Vous ne comprenez pas? Vous n'aurez pas le choix? Ils vont se mettre à nous traquer, nous coller dans des avions ou des trains pour Anchorage, nous déporter, nous parquer, comme ils ont déjà commencé à faire pour les gosses isolés, ceux qu'ils chassent dans la forêt. Zoé alluma une cigarette, fixa son regard sur le feu. Elle n'aimait pas cette conversation. Elle n'aimait pas qu'il parle des enfants. S'il savait ce qu'elle faisait de ses journées, comment elle gagnait sa vie, il lui cracherait la gueule. Elle se demanda si Fred l'avait fait exprès. S'il se doutait de quelque chose, dans la pénombre, personne ne sembla déceler son malaise.
Nous espérons que ce roman au titre énigmatique « L'enfant rivière » vous plaira. Il pose en pointillé les préoccupations de notre époque tout en inversant les protagonistes. Cette émission a été préparée par Anne et Guylaine qui ont aussi prêté leur voix au personnage. Le montage est assuré par Claude Michel. Les plages musicales sont extraites de l'album « La Lionora » de Lassa. Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous disons à très bientôt.
Chers auditeurs,
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le